VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde. Aujourd'hui, édition du mardi 14 janvier 2020. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
À Pau, en France, les dirigeants des pays du G5 Sahel ont signé une déclaration commune exprimant le souhait de la poursuite de l'engagement militaire français au Sahel.
Washington veut réduire la présence militaire américaine en Afrique, a dit le général Milley, chef d'état-major interarmes des États-Unis.
En Guinée, deux jeunes manifestants ont été tués hier au cours d'une journée de mobilisation contre le président Alpha Condé, accusé de vouloir briguer un troisième mandat fin 2020.
Le Rwanda soutient la République démocratique du Congo dans sa traque des rebelles Hutus des FDLR, dont les jours sont comptés selon Kigali.
À Moscou, pas de signature formelle hier du cessez-le-feu convenu en Libye, mais du progrès.
En Iran, la colère populaire reste vive, bien que le gouvernement ait nié avoir tenté de masquer la responsabilité des autorités dans le drame de l'avion ukrainien abattu par erreur le 8 janvier.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
À Pau, en France, les présidents de cinq pays sahéliens et leur homologue français Emmanuel Macron ont convenu hier de renforcer leur coopération militaire face à une escalade des attaques djihadistes. Monsieur Macron a également dénoncé avec colère des discours indignes anti-français portés notamment, je cite, par des puissances étrangères. Comme le leur réclamait le président français, les dirigeants du G5 Sahel ont signé une déclaration commune où ils ont exprimé le souhait de la poursuite de l'engagement militaire de la France au Sahel.
Une réponse très attendue par Paris suite à la montée du sentiment anti-français, en particulier au Mali et au Burkina. Cependant, lors de leur conférence de presse commune hier soir, ces derniers n'ont fait aucun commentaire sur le sujet. Le président Macron résume ici les conclusions du sommet de Pau.
Les chefs d'État du G5 Sahel ont exprimé leur souhait de la poursuite de l'engagement militaire de la France à travers Barkhane. Deuxième remarque que je voulais faire, c'est que nous avons clarifié, comme l'a dit le président Caboret, les objectifs qui sont les nôtres. L'objectif militaire, c'est la zone des trois frontières, entre Mali, le Burkina et le Niger. La priorité, c'est l'État islamique du Grand Sahara, ce qui ne nous empêche pas de combattre tous les groupes armés terroristes. Mais c'est l'ennemi prioritaire, car c'est le plus dangereux tel qu'avéré. Pour atteindre cet objectif, nous changeons la méthode en mettant en place une coalition militaire avec un commandement conjoint entre la force Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel, en concentrant nos efforts sur cette zone. Et donc en intégrant nos forces de renseignement, nos forces militaires sur cette zone avec une latitude d'engagement beaucoup plus forte. L'objectif politique, c'est la consolidation de l'État, le retour de l'État partout, dans toutes les régions. Et nous avons évoqué le retour, justement, de l'État malien à Kidal. Le but de nos ennemis, c'est l'effondrement de la souveraineté nationale. Et c'est le même défi auquel est confronté le président Issoufou par les attaques répétées. Et je veux encore une fois le remercier d'être parmi nous quelques jours après une attaque très dure et une situation intérieure extrêmement dure. Mais il sait combien l'engagement commun que nous prenons ce soir est aussi clé à ses côtés. Nous aurons une conférence sur le Sahel le 26 mars prochain à Bruxelles. Et puis nous avons acté une clause de rendez-vous avant l'été à l'invitation de la future présidence en exercice du G5, la Mauritanie. Dans 3 mois, un rendez-vous au niveau ministériel et une coordination bimensuelle pour justement faire avancer ce sujet. Cette coalition et tout ce travail est inséparable de 2 autres engagements sur lesquels les États présents et la communauté internationale continuent d'agir. La crise dans la région du lac Tchad et évidemment la situation en Libye.
Le président français Emmanuel Macron. Et concernant justement la Libye, les négociations à Moscou destinées à signer un accord formel de cessez-le-feu dans ce pays se sont soldées par, dit-on, du progrès, mais elles n'ont pas abouti à la signature de ce document crucial pour la trêve, entrée en vigueur dimanche. Les précisions d'Irénée Herman Umbo.
Fayez al-Sarraj a signé le projet d'accord, mais Khalifa Haftar demande un peu de temps supplémentaire pour réfléchir à sa signature. Un certain progrès a été obtenu, s'est félicité le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, à l'issue des négociations qui ont duré environ 7 heures. Aucune rencontre physique entre le chef du gouvernement libyen, Fayez al-Sarraj, et l'homme fort de l'Est, le maréchal Khalifa Haftar, n'a eu lieu selon le président du Conseil d'État libyen, basé à Tripoli, Khaled al-Meshri. entrée. Le projet d'accord soutient l'initiative russo-turque de mettre en place une cessation illimitée des hostilités en Libye. Il prône la normalisation de la vie quotidienne à Tripoli et dans les autres villes du pays, puis l'accès à la distribution en toute sécurité de l'aide humanitaire. Et les Nations Unies veulent organiser une autre réunion sur la Libye le 19 janvier à Berlin.
Washington ne veut réduire la présence militaire américaine en Afrique. Les ressources que le Pentagone consacre à l'Afrique ou au Moyen-Orient pourraient être réduites et ensuite redirigées, soit pour améliorer la préparation de nos forces aux États-Unis, soit vers le Pacifique, a déclaré le chef d'état-major interarmes américain, le général Mark Milley, à son arrivée à Bruxelles pour une réunion du comité militaire de l'OTAN ce mardi et mercredi. Le président Emmanuel Macron a affirmé au sommet de Pau qu'un désengagement américain serait, je cite, « une mauvaise nouvelle pour nous. J'espère pouvoir convaincre le président Trump que la lutte contre le terrorisme se joue aussi dans cette région », a-t-il déclaré.
Deux jeunes manifestants ont été tués hier en Guinée au cours d'une journée de mobilisation émaillée de heurts avec les forces de l'ordre, a-t-on appris de sources concordantes. Cette journée de mobilisation a été organisée par le Front national pour la défense de la Constitution, le collectif de partis, de syndicats et de membres de la société civile pour protester contre le projet prêté au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat fin 2020. Le collectif entend poursuivre le mouvement ce mardi. Ces deux morts, confirmées par les autorités, s'ajoute au bilan d'au moins 26 000 et un gendarme tué depuis le début à la mi-octobre de la contestation, plusieurs fois durement réprimée dans ce pays d'Afrique de l'Ouest coutumier des manifestations meurtrières.
Kigali annonce que les jours des FDLR, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, sont comptés en République démocratique du Congo. En fait, les autorités rwandaises réagissaient ainsi à une lettre des rebelles Hutus rwandais qui dénoncent un accord secret entre Kigali et Kinshasa. Le point avec Eddie Isango.
Par un tweet, le secrétaire d'État rwandais aux affaires étrangères, Olivier Ndungiere, donne sa réponse aux FDLR. Il affirme que grâce aux FRDC, l'armée régulière congolaise, les jours des rebelles Hutus rwandais sont comptés. Évidemment, il ne manque plus que les génocidaires FDLR qui terrorisent les Congolais à l'est de la RDC depuis 1994 de profiter de la brèche qui leur a été ouverte par des politiciens et hommes d'église irresponsables, écrit le secrétaire d'État rwandais. Allusion au cardinal congolais Fridolin Bongo, au président de l'église protestante et au dirigeant de la Mouka qui dénonce un plan de balkanisation de la RDC. Dans leur lettre, les FDLR ont cité les gouvernements rwandais qui, selon eux, visent à perpétuer les plans d'occupation de la RDC. Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, a appelé à une marche contre la balkanisation le 17 janvier.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La colère des Iraniens est restée vive hier malgré le démenti du gouvernement qui a nié avoir tenté de masquer la responsabilité des autorités dans le drame de l'avion ukrainien abattu par erreur le 8 janvier. Lundi, pour le troisième jour consécutif, des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux semblant montrer des manifestations, notamment à l'université Sharif de Téhéran, à Sanandaj au Kurdistan et à Ispahan notamment. Les manifestants y scandaient des slogans hostiles aux autorités de la République islamique, y compris au clergé chiite. Des appels ont été lancés sur les réseaux sociaux à d'autres rassemblements mardi, mercredi et jeudi.
Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a accusé Téhéran de vouloir tout faire pour mettre fin aux manifestations, assurant les manifestants du soutien américain à leurs appels en faveur de la liberté et de la justice et à leur colère justifiée contre leurs dirigeants. M. Pompeo a par ailleurs assuré lundi que tous les dirigeants irakiens lui avaient dit en privé être favorable à une présence militaire américaine pour lutter contre le groupe djihadiste État islamique. Le sentiment anti-américain a été exacerbé en Irak depuis que les États-Unis ont tué le 3 janvier le général iranien Qassem Soleimani et son lieutenant irakien Abu Merdi al-Mohandis lors d'une frappe à Bagdad.
Des Russes liés au renseignement militaire russe, le GRU, ont hacké pendant l'automne l'entreprise ukrainienne à la base de la procédure de destitution contre le président Donald Trump, et ce au moment même où des témoins étaient auditionnés au Congrès sur cette affaire. guerre. C'est ce qu'a révélé lundi une entreprise spécialisée citée par plusieurs quotidiens américains. Le président américain, qui dément, est accusé d'avoir gelé 400 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine en échange d'une enquête sur son potentiel rival à la présidentielle, Joe Biden, et son fils Hunter, qui avait siégé à la direction de cette entreprise ukrainienne. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Côte d'Ivoire lance sa première opération de l'année pour mobiliser 55 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UMOA. L'agence Ecofin précise que l'opération est une émission de bons assimilables du Trésor ayant des maturités de 3 et 12 mois. Chaque bon aura une valeur de 1 million de francs CFA avec des échéances fixées respectivement au 4 avril 2020 et au 12 janvier 2021. Le budget ivoirien 2020 prévoit la mobilisation de 1494 milliards de francs CFA sur les marchés de l'UMOA et à l'international afin de combler un déficit budgétaire d'environ 3% du PIB. La Guinée équatoriale ne maintiendra l'accord de réduction de la production de l'OPEP au-delà de mars que si la fourchette du prix du pétrole reste entre 60 et 70 barils le pétrole. En juin, les autorités équato-guinéennes ferait connaître l'identité de la société qui prendra le champ pétrolier de Zafiro qu'Exxon veut quitter. Ce champ produit actuellement plus de 90 000 barils de pétrole par jour. Les autorités sont déjà en pourparlers avec des entreprises de Russie, du Royaume-Uni et de la Guinée équatoriale elle-même. Terminons par les actions de MTN Nigeria qui ont augmenté de 10%, soit leur plus haut niveau en 2 semaines, après que le procureur général du pays a retiré une demande fiscale de 2 milliards de dollars contre la société des télécommunications sud-africaine.
Les sports à présent avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Foot Maroc, un nouveau coach pour le Wydad.
Oui, le Wydad de Casablanca s'est séparé lundi de son entraîneur, le Serbe Zoran Manolovic, et a annoncé dans la foulée son remplacement par l'Argentin Miguel Gamondi. Manolovic, âgé de 57 ans, était arrivé sur le banc du club en juillet dernier en remplacement du Tunisien Fawzi Benzarti. Lui, son remplaçant, l'Argentin Gamondi, âgé de 53 ans, est notamment passé par l'ES Tunis et l'USM Alger. En novembre, il avait été limogé par le Hassania d'Agadir. Son remplacement sur le banc du Wydad intervient 2 jours après le match nul 2-2 face aux Angolais de Petro Atlético dans le cadre de la 4e journée du groupe C de la Ligue des champions de la CAF. Grand rival du Raja, le Wydad, champion en titre, est l'un des clubs marocains les plus titrés.
Espagne, le FC Barcelone s'apprête à licencier Ernesto Valverde.
Oui, hier soir, la presse espagnole en faisait ses choux gras. L'entraîneur Ernesto Valverde, en pleine tourmente, va être prochainement remercié par le FC Barcelone après avoir dirigé l'entraînement lundi matin. Selon le journal sportif catalan El Mundo Deportivo, les dirigeants du Barça se sont réunis dans la nuit de dimanche à lundi pour évoquer son avenir. Et Valverde a rencontré dans la foulée le président Josep Maria Bartomeu pendant près d'une heure hier, juste avant la réunion ordinaire du conseil d'administration du FC Barcelone, qui était prévue hier après-midi au Camp Nou.
Dopage et corruption, le procès du clan Diak, torpillé et renvoyé dès le premier jour.
Oui, le procès de l'ancien patron de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diak, de son fils Papa Massata et de 4 autres acteurs pour corruption sur fond de dopage en Russie, a été renvoyé dès le premier jour, au moins jusqu'en juin, torpillé par les problèmes de procédure. À 86 ans, le Sénégalais qui a régné de 1999 à 2015 sur l'IAAF doit répondre devant les juges de la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris de corruption active et passive, abus de confiance et blanchiment en bande organisée. Il risque jusqu'à 10 ans de prison et une lourde amende, mais l'audience a tourné court. Dès l'ouverture, les procureurs financiers ont été contraints de prendre acte de l'arrivée le matin même sur leur bureau d'actes d'enquête qui avait été demandé par les juges d'instruction en 2016 et auquel la justice sénégalaise n'avait jusque-là jamais donné suite. Et pour terminer, Idrissa, quelques résultats de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
La Nouvelle-Orléans et Détroit 117 à 110, Indiana et Philadelphie 101 à 95, Boston et Chicago 113 à 101, Oklahoma City et Minnesota 117 à 104, Portland et Charlotte 115 à 112, Orlando et Sacramento 114 à 112.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Réunis à Pau, dans le sud-ouest de la France, les pays du G5 Sahel, discutant avec le président Emmanuel Macron, ont souhaité la poursuite de l'engagement militaire français pour lutter contre le djihadisme dans la région. Et M. Macron a annoncé l'envoi de 220 soldats supplémentaires sur le terrain. Une nouvelle coalition pour le Sahel verra le jour et il y aura une coordination des actions. À Bamako, le sommet du G5 Sahel à Pau a été très suivi, nous dit notre correspondant au Mali, Kassim Traoré.
Les regards des Bamakois étaient tournés vers Pau en France, où le président français et ses homologues du G5 Sahel étaient en conclave dite de la clarification.
Macron a convoqué, si on peut le dire, les cinq chefs d'État du G5 Sahel pour venir éclaircir leur position. Parce que quand ils sont ensemble dans leur bureau, ce qu'ils leur disent et ce que Macron voit, les revendications de la population de ces États ne sont pas les mêmes. Nous, nous allons pour dire à Macron d'éclaircir sa position.
Les Maliens ont pu suivre le sommet de Pau grâce à la télévision nationale. Roch Marc-Christian Kabore, président du Burkina Faso, présent en exercice du G5 Sahel.
Le premier point est la nécessité que nous puissions coordonner l'ensemble des opérations des différentes forces sur le terrain et concentrer ces actions-là, je dirais, sur le fuseau centre. Le second point, c'est la nécessité de renforcer les capacités des armées nationales et de les doter, je dirais, des moyens qui leur permettent d'assurer le type de combat asymétrique que nous devons mener sur le terrain. Le troisième pilier, c'est celui de faire en sorte que nous puissions restaurer, je dirais, l'autorité de l'État. Et enfin, nous devons travailler également au développement.
Il y aura un nouveau cadre politique, stratégique et opérationnel, baptisé Coalition pour le Sahel, rassemblant le G5 Sahel, la Force Barkhane et les pays partenaires. Abdramane Sissoko, enseignant.
Parmi tout ce qu'ils ont dit, je retiens seulement que 220 soldats français seront encore de nouveau envoyés au Mali. Pour moi, ce chiffre me paraît insuffisant. Les 4000 soldats qui sont au Mali, ce sont vraiment insuffisants. Et je pensais qu'il allait quand même au moins ramener le nombre à 10 000 et ça allait quand même permettre de lutter efficacement contre le terrorisme. Mais 220 plus 4000 me paraît être insuffisant. Nous aurons fait du surplace. C'est un sommet pour rien pour moi.
Ils ont en particulier décidé de concentrer immédiatement leurs efforts militaires dans la zone des trois frontières, Mali, Burkina, Niger. C'est le lieu où se sont concentrées les attaques de ces derniers mois. Et l'opération va cibler en priorité les groupes État islamique dans le Grand Sahara. Malik Konaté, membre du mouvement Trop c'est trop.
Désormais, ils vont collaborer avec le G5 Sahel pour combattre les terroristes ensemble et renforcer davantage pour combattre les groupes islamistes. Donc du coup, on peut dire que la rencontre de Pau a donné un résultat. Le résultat, c'est des renforcements et de la coopération, entre l'opération Barkhane et le G5 Sahel.
Selon Ousmane Diakité de la société civile, les présidents du G5 Sahel ont clarifié leur position avec le maintien de la force Barkhane.
Ils ont choisi l'option d'après Emmanuel Macron, l'option de clarification de leur position. Et cette position, c'était quoi? D'aider à la France de maintenir sa troupe dans le Sahel. Parce que tout le monde sait pertinemment aujourd'hui quand la France va quitter le Sahel. Les présumés terroristes viendront nous chercher dans nos pays, notamment au Mali. C'est que moi, j'ai dit la poursuite de leurs opérations dans les Sahel, c'est une très bonne chose. Mais que la force Barkhane aussi change sa façon d'intervenir. C'est ce qui a été décidé à Pau.
Il faut signaler que le futur groupement des forces spéciales européennes, baptisé Takuba, s'intégrera dans le commandement conjoint du G5 Sahel. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Bien avant le sommet de Pau, le sentiment contre la présence militaire française au Sahel avait beaucoup d'adeptes. au Mali. Pour marquer les 7 ans de l'intervention française le 10 janvier 2013, des associations ont organisé une grande manifestation à Bamako pour demander le départ des forces françaises. Et au Burkina voisin, le syndicaliste Bazier Bassolma a appelé au retrait des troupes françaises. Comment expliquer ce sentiment anti-français? Idriss Fall a joint le docteur Younoussa Touré, directeur de recherche à l'université de Bamako et rédacteur en chef de la revue Études maliennes.
Premièrement, je pense que les gens avaient effectivement compris que Barkhane, notamment, parce que Serval avait déjà fait son travail, les gens pensaient que Barkhane venait effectivement pour lutter contre le terrorisme. Les gens ont plutôt le sentiment que cette lutte n'a pas donné des résultats escomptés. Avec les réseaux sociaux qui relaient souvent des intox, on pense souvent, voilà, Barkhane, ils ont quitté cet endroit et puis le lendemain, il y a eu que l'attaque. Donc les gens se sont mis un peu à douter de la véritable volonté de combattre le terrorisme. À tort et à raison, il donne en tout cas une certaine puissance à la France, pensant que si la France avait voulu, elle aurait pu. Il y a aussi une montée de sentiments contre les pouvoirs en place.
Les pouvoirs en place qui sont très souvent soutenus par la France.
C'est ce que les gens pensent. La France est surtout là pour tirer le pouvoir. Et compte tenu de la qualité de la gouvernance, des résultats et du malaise général qui se développe, on pense que si ce n'était pas la France, ces pouvoirs-là auraient pu dégager. C'est le sentiment que la France est en train aussi de soutenir à peu près des gens qui n'ont plus de légitimité. Et à partir de là, des activistes ou certains idéologues plus ou moins opposés, partis politiques et politiciens, ont fait une sorte de guerre par procuration à la France.
C'est l'intervention française qui a arrêté l'offensive du Moujao en 2013. Les Français ont perdu aussi des soldats au Mali.
Mais bien sûr, et cela, là, les Maliens, je pense, avaient aussi exprimé leur reconnaissance par rapport à ça. Vous pouvez vous souvenir de l'arrivée de Hollande, de l'ambiance qui a été à l'occasion de cette arrivée, qui a même poussé Hollande a dit que c'était un des jours les plus heureux de sa vie. Mais on a eu le sentiment que le travail n'est pas achevé, que la France était un peu derrière la rébellion. C'est pourquoi il a demandé de ne pas aller à Kidal.
Les rebelles ont battu à plate couture l'armée malienne pendant la fameuse visite du premier ministre Moussa Mara. Les Français n'étaient pas mêlés.
Dans la mesure où les gens pensent que certains Français ont dit que les Touaregs étaient leurs amis, donc ça donne l'idée aux gens que bon, si les collègues ont cette force, c'est qu'ils sont peut-être soutenus par la France. Et c'est des représentations que les gens auraient pu se faire en fonction des réalités du terrain. Un ministre français dit que les rebelles sont leurs amis. Donc si les rebelles font telle chose, on pense que c'est parce qu'ils ont eu le soutien de leurs amis. C'est tout cela entremêlé, surtout la crise économique, la crise de l'emploi des jeunes et tout cela mis ensemble amène les gens à se révolter contre celui qu'on croit être vraiment des soutiens, ceux qui sont en train de profiter de cette crise-là.
Le docteur Younoussa Touré, directeur de recherche à l'université de Bamako et rédacteur en chef de la revue Études maliennes.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Les négociations de Moscou visant à la signature d'un accord formel de cessez-le-feu en Libye se sont soldées par, je cite, du progrès, sans toutefois aboutir à la signature de ce document crucial pour la trêve entre les belligérants Fayez al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar. Trêve entrée en vigueur la veille. Abdourahman Dia a joint à Moscou Jalel Arshaoui, chercheur au Klingendael Institute de la Haye et spécialiste de la Libye.
C'était quand même beaucoup plus ambitieux que simplement venir cimenter ou consolider le cessez-le-feu. Il y a une véritable ambition de tracer une feuille de route de la part des Russes et de la part des Turcs, mais aussi d'acteurs qui ont finalement accepté de jouer le jeu, qui sont beaucoup moins visibles, comme bien sûr les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis étant l'État qui intervient le plus massivement dans la Libye d'aujourd'hui, beaucoup plus que la Russie ou la Turquie.
Donc le principal point de discorde pour le maréchal Haftar, c'est qu'il refuse de retirer ses troupes des territoires déjà conquis, qui s'approchent un peu de Tripoli.
Voilà, c'est exactement ça. Lui, il voulait vraiment prendre le maximum, et c'est vrai que de l'autre côté, il y a une demande un petit peu irréaliste aussi, parce que la demande officielle du côté de Tripoli, c'est qu'il recule toutes ses troupes au-delà, c'est-à-dire qu'il les emmène derrière la ligne du 4 avril. Le 4 avril étant le jour du démarrage de son offensive. Il y a une demande très très forte de la part du gouvernement Tripoli. Et de l'autre côté, il y a l'inverse, l'extrême opposé, c'est-à-dire l'espoir de la part du maréchal de garder ses troupes le plus loin possible, exactement au moment, à l'endroit des lignes de front actuelles.
Moscou et Ankara sont devenus des acteurs clés dans ce conflit. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ?
À partir du mois d'avril, quelques jours après le début de l'offensive par le maréchal Haftar jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 12 janvier, eh bien, il y a eu des frappes quotidiennes menées par les Émirats Arabes Unis en violation totale de toutes les conventions et les lois internationales. Et la politique des diplomates occidentaux, c'est qu'il ne fallait pas parler de cette intervention-là. Et ce non-dit, ce refus de mentionner l'existence d'une campagne militaire, d'une intervention à pleine échelle d'un État étranger qui n'a rien à voir avec la Libye, cette protection occidentale de la part des Américains, surtout des Français, mais aussi des autres Européens, eh bien ce silence pouvait marcher quelques jours, quelques semaines, mais au bout de 9 mois, il a constitué une ouverture, un trou béant dans lequel la Turquie s'est engouffrée.
Et ce qu'on n'entend pas beaucoup, ce sont les Africains qui souffrent également beaucoup de cette crise.
Les Africains sont divisés. Hein. Il ne faut pas penser non plus que l'Union africaine est complètement en un seul bloc. Il y a, disons, deux écoles de pensée. Il y a celle qui est menée plutôt par l'Algérie, par le Rwanda, des pays comme ça, que je caractériserais comme plutôt anti-France, anti-Égypte. Et il y a l'autre camp, plutôt le Congo-Brazzaville, le Niger, le Burkina Faso, l'Égypte, plutôt du côté de cette notion de guerre contre le terrorisme, que le maréchal Haftar est le bon cheval sur lequel il faut parier.
Jalel Archaoui, joint à La Haye. Au Sénégal, des cas d'urgence non pris en charge convenablement sont souvent décriés par les patients et leurs accompagnants. Pour y remédier, le ministre de la Santé a pris des mesures. Notre correspondant Sédina Abagué a fait un tour au centre hospitalier universitaire de Fan, l'un des plus grands hôpitaux du pays, pour voir si la prise en charge des cas d'urgence est optimale.
À l'hôpital de Fan, le service des urgences tourne à plein régime tout au long de la journée, mais cela n'empêche pas les blouses blanches de prendre en charge les patients de la meilleure des manières. Au chevet de sa mère malade, Ndaï nous explique comment celle-ci a été prise en charge dès son arrivée.
Je peux dire que la décision du ministre a été appliquée à la lettre ici, parce que moi, j'ai une patiente, ma maman est hospitalisée au service neuro, mais on est venu le 31 décembre, c'était un mardi, on l'a prise en charge, on a fait les premiers soins et vraiment, on nous a pas demandé d'argent. C'est après son hospitalisation, 12 jours après qu'on m'a appelé dans le bureau du major pour me demander une caution. C'est juste l'IRM qui a nécessité qu'on se déplace parce qu'ici, la machine pour l'IRM est en panne. On était parti à la clinique du Cap pour faire l'IRM là-bas et c'est l'ambulance qui nous a amenés.
Pour d'autres, l'expérience a failli tourner au drame. Karambay raconte comment il a attendu des heures avec son ami malade avant d'être convenablement pris en charge.
Quand nous étions venus vers les 5h du matin, mais on a attendu jusqu'à 9h pour que le service commence le travail. Alors on a attendu encore jusqu'à 13h pour être accueilli, faire un scanner. Après le scanner, il n'y avait pas beaucoup de suivi. Alors, vu que notre patient était en train de, c'est-à-dire de trembler, on l'a allé appeler le médecin. Il a dit que voilà, il a une certaine fièvre. On l'a donné des perfusions. Après, on nous a dit que voilà, il doit être hospitalisé sur maladie infectieuse. Vu que donc son paludisme était un peu aggravé, ce qu'on appelle en médecine neuropathie. Alors, je pense que cela, c'est un manque de suivi parce que si nous n'avions pas constaté son tremblement et son température qui est en train d'augmenter, c'est nous qui n'arrêtons pas de payer les pots cassés.
Les structures sanitaires font ce qu'il faut, mais certains accompagnateurs sont souvent en état de choc et ne parviennent pas à s'organiser comme il faut. C'est du moins l'avis de Amadou Lamine Fall, chef du service de la communication et de l'information du centre hospitalier universitaire de Fan.
Non, la population, pour la plupart du temps, quand tu as un malade, tu es effaré, n'est-ce pas, égaré, etc. C'est normal. Ils viennent, n'est-ce pas, à la première structure, n'est-ce pas, dont tu penses. Il appartient, n'est-ce pas, arriver à l'urgence. Si l'urgence n'est pas directement impliqué par Fan, le médecin le voit, le conditionne, le met dans l'ambulance pour l'orienter dans la structure, n'est-ce pas, habilité à le prendre. Mais les populations ne peuvent pas les critiquer parce qu'ils ne savent pas, pour l'essentiel. Il est vrai que la sensibilisation doit se faire de manière expliquée, quoi, davantage, quelle urgence, n'est-ce pas, est prise par tel hôpital. Mais dans tous les cas, quelle que soit la sorte d'urgence, il peut être pris, n'est-ce pas, par n'importe quel hôpital.
Dorénavant, le ministère de la Santé oblige les hôpitaux à prendre en charge prioritairement les malades qui arrivent en situation d'urgence. Faute de place ou de conditions de prise en charge optimale, le patient devra être référencé et évacué en ambulance vers une structure sanitaire qui pourra s'assurer de sa prise en charge à la arrivées. À Dakar, Sedina Bagay pour VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.